on essaie de démontrer que le courant passe, peut passer, mieux, plus, et que ce qui nous réunit, qui est ici l'amour de la littérature, de l'expression écrite, des écrivains, ça contribue à sa manière, à ce à quoi nous croyons tous, puisque nous sommes unis ici dans cette ferveur autour de la relation historique entre les États-Unis d'Amérique et la France. Cela étant, ceci étant bien solennel, on va parler de Cécile Gilbert. C'est le principal objet de notre réunion de ce soir. Cécile, cela ne vous aura pas échappé, est une femme. Il se trouve que les trois précédents invités des French Literature in the Making étaient des hommes. Il était temps que l'on évoluât dans une direction, après tout, considérable. Mais Cécile est, et je dirais, et Cécile a écrit un roman, on en parlera tout à l'heure, le Musée National, mais je crois qu'elle ne contesterait pas qu'elle est un essayist, comme on dit en anglais, un essayiste en français. C'est moins euphonique en français, d'autant que la nuance de la fiction-non-fiction en anglais et en français existe. C'est-à-dire que un essayiste en anglais est un écrivain à part entière qui adopte un point de vue sur ce dont il traite, qui est celui d'un écrivain, d'un créateur, à partir d'un fait qui peut être de non-fiction. En français, les choses sont beaucoup moins simples. Même si les essais de Montaigne sont peut-être le premier texte qualifié de la sorte, nous avons une autre culture, un autre regard sur l'écriture de non-fiction. Au reste, il est significatif que nous ayons adopté en France le terme de non-fiction pour définir ces travaux incontestablement littéraire et qui porte non pas sur une intrigue romanesque, qui ne repose pas sur une intrigue romanesque, le roman, mais sur une réflexion sur un personnage, sur une œuvre, sur une époque. Et de ce point de vue-là, Cécile Gilbert, qui a poursuivi des études brillantes, qui est à la fois journaliste, éditeur, et d'abord et avant tout, et c'est pour ça qu'elle est ici, un écrivain ou une écrivaine, je n'ai pas une passion pour ce terme, ne m'en veuillez pas, qui est un écrivain français d'aujourd'hui, est tout à fait à sa place. Pourquoi ? Parce que son œuvre est encore en devenir. Cécile Gilbert a publié 4 livres à ce jour aux éditions Gallimard, qui pour 3 d'entre eux sont des essais, on va y revenir, et pour l'un, un roman. Ce qui prévaut chez elle, avant toute autre chose je crois, c'est le style. L'écrivain d'essais ne peut pas appuyer son travail sur la trame romanesque, par définition. Il ne peut pas entraîner le lecteur vers une intrigue, vers un mystère résolu à la fin du roman, puisque, si j'ose dire, au lieu de parler à la première personne, c'est plutôt à la troisième que s'exprime l'essayiste. Dans le cas de Cécile Gilbert, c'est un peu plus compliqué. Elle n'hésite pas à se mettre en scène. Et ce faisant, elle pose l'écrivain d'essai dans une situation extrêmement engagée. Engagée, y compris du point de vue du corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans quelque chose qui est une réflexion intellectuelle sur Saint-Simon, sur Guy Debord ou sur Lawrence Stern, pour parler de son dernier livre, où il a eu l'audace de traiter d'un écrivain totalement inconnu des Français, qui est l'Irlandais Stern. Elle se met en scène, et elle se met en scène d'une façon qui n'est jamais preposterous, qui n'est jamais déplacée, qui n'est jamais arrogante, qui est plutôt ironique. En ça, elle est assez contemporaine de son modèle Stern, écrivain du 18e, et s'il est bien un siècle qui, me semble-t-il, inspire notre ami, c'est le 18e, car Saint-Simon, même s'il est publié dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade en France, selon la reliure rouge qui caractérise le 17e, est bel et bien, et elle le démontre, un écrivain du 18e, donc du siècle des Lumières. Pour vous donner une idée, avant de lui demander de nous lire un extrait de son premier livre, qui s'appelle donc « Saint-Simon ou l'encre de la subversion », publié aux éditions Gallimard en 1994, sauf erreur de ma part, je voudrais vous lire le début de ce texte. C'est le premier livre de Cécile Gilbert, qui paraît dans la collection de Philippe Solers, « L'infini » en 1994, il y a donc 13 ans. Je n'ai pas besoin de vous dire que la collection que dirige Solers, c'est une collection très marquée par son animateur, qui n'a pas tendance à publier n'importe quoi. C'est peu dire d'ailleurs. Dans cet ouvrage figure, à la fin, la liste des textes appartenant à la collection que le dit Solers a publié. C'est une liste qui ressemble presque à une liste d'honneur. Il y a des écrivains remarquables. D'autres qui le sont moins, à mon avis. Ce n'est pas le cas de Cécile Gilbert. Mais je voudrais vous demander de prêter attention à l'enjeu tel que le définit Cécile à la première ligne de son premier livre, paru il y a donc 13 ans. Prologue des statues et des corps. Le prince, sa cour, leur vicissitude. Tout a été dit et charrié par les siècles, et notre mémoire en a fondu un cabinet de cire. Quelques conjurés florentins fourbissent leurs dagues, un jésuite courbé sur son écritoire en ébène, tout un peuple de perruques à marteaux et de talons rouges, des faces de lune poudrées, piquées de mouches, des taffetas défraîchis, reins graves fanés, couleur de muraille et partout la poussière, encore du temps. Ont-ils été vivants un jour, ces mannequins dérisoires et ternis? Il faut le croire. C'est de ces poupées obscènes que nous avons peuplé nos lectures. Il fallait bien gorger d'un peu de viande, de sang et de sperme les abstractions saturniennes des moralistes.
Donc ce que je vais dire, c'est un portrait que fait le duc de Saint-Simon d'un de ses contemporains. C'était un petit homme ventru, monté sur des échasses, tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries partout, avec une longue perruque tout étalée en devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il pouvait en mettre, plein de toutes sortes de parfums. C'était une bossue, tout de travers, fort laide, pleine de blanc, de rouge et de filets bleus pour marquer les veines, de mouches, de parures et d'affiquets, quoique déjà vieilles. C'était un petit homme vigoureux et maigre, un visage en losange, un nez grand et aquilin, des yeux beaux, parlants, perçants, qui ne regardait qu'à la dérobée, mais qui, fixé sur un client ou un magistrat, était pour le faire entrer en terre. Un habit peu ample, un rabat presque d'ecclésiastique et des manchettes plates comme eux. Une perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue mais courte, avec une grande calotte par-dessus. C'était monsieur, madame de Montauban, le premier président Harlay.
Quelques pages après, tu cites une phrase magnifique de Marcel Proust, citant lui-même Monsieur de Voltaire, et qui a dit ceci à propos de Dante, et je pense que l'assimilation d'avec Saint-Simon est évidente. Dante est assuré de survivre, on le lit peu. Alors, je ne sais pas si on lit peu Dante, mais alors franchement, Saint-Simon, en dehors de toi, je ne connais personne qui s'y intéresse. Il faut que tu nous dises comment une jeune femme, fraîche et moulue des concours les plus difficiles de la fonction publique française, pourquoi, comment le duc de Saint-Simon?
Alors, il y a assez de raisons. La première dont tu as parlé, Olivier, c'est qu'il est vrai qu'en France, on n'est pas un écrivain tant qu'on n'a pas écrit de roman. C'est-à-dire que le roman est vraiment le totem littéraire par excellence, la vache sacrée. Sur laquelle fantasment les individus, les éditeurs et le marché. Et donc, comme moi j'avais envie d'écrire depuis très très longtemps, et quand j'ai commencé à vouloir écrire sérieusement, j'ai voulu écrire un roman. Et il se trouvait que le personnage principal du roman que j'avais décidé d'écrire était un spécialiste de Saint-Simon, parce que j'aimais beaucoup Saint-Simon, et qu'à travers Saint-Simon, j'avais une expérience personnelle à régler, à savoir une expérience assez malheureuse dans les allées du pouvoir et les cabinets ministériels. Et donc Saint-Simon déjà éveillait un écho en moi assez fort. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au fil de l'écriture de ce roman, moi, je ne devais pas être assez doué pour ça, ou le roman n'était pas bon, j'en étais pas contente. Et je m'apercevais qu'au lieu de me passionner pour l'écriture de ce roman, je me passionnais davantage pour Saint-Simon. Donc j'ai laissé tomber le roman, je me suis intéressée à Saint-Simon, et j'ai commencé la lecture des mémoires. Et c'est vrai que Saint-Simon est un auteur, bon, il s'appelle Saint-Simon, en fait il était duc de Saint-Simon, il s'appelle Louis de Rouvray. C'est vrai que c'est un auteur qui est peu lu en France, mais il fait partie comme ça de ces grands cadavres, de ces grands auteurs classiques qu'on cite dans les manuels scolaires, que personne n'a lu parce que c'est trop long et trop ingrat à lire. C'est vrai qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre et des morceaux de bravoure dans Saint-Simon, il y a beaucoup de tunnels, beaucoup de passages ennuyeux. Mais bon, je me suis dit, il faut se jeter là-dedans parce que c'est vraiment un style tout à fait exceptionnel. Saint-Simon était un aristocrate qui a vécu les dernières années du règne de Louis XIV et qui... ne se pensait pas du tout écrivain. C'était un aristocrate qui était entiché de son rang, entiché de sa caste, qui pensait qu'il pourrait servir au prince. Il avait une passion qui était le petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne, et il pensait que si le duc de Bourgogne arrivait sur le trône, il allait être son conseiller. Donc, à aucun moment, il ne s'est pensé socialement comme un écrivain. Il était beaucoup trop souverain et beaucoup trop entiché de sa dignité nobiliaire. Mais j'ai trouvé en Saint-Simon donc quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui me permettait de me venger un peu de cette expérience du pouvoir, d'exorciser un peu l'expérience que j'avais eue de la bassesse du courtisan dans ses cabinets ministériels, et puis surtout un style qui m'enthousiasmait, parce que c'est un style qui est totalement irrégulier, c'est un style qui est très incorrect en français. C'est un style qui est bourré de fautes d'orthographe, mais ça, bon, passons, c'est pas très... L'orthographe, bon, c'est encore un détail, mais si vous voulez, la langue française, et je trouve que ça, c'est intéressant d'en parler avec vous, c'est que la langue française, comme la langue anglaise, a plusieurs strates historiques. C'est des langues qui remontent très, très, très loin dans le temps. Je pense que, par exemple, un auteur comme Nabokov, s'il a réussi à écrire en anglais et laisser tomber le russe, et écrire les chefs-d'œuvre qu'il a écrits en anglais, c'est parce qu'il avait compris, en écrivain d'exception qu'il était, qu'il y avait un potentiel, une richesse et des strates historiques dans la langue anglaise qu'il n'avait pas dans le russe. En français, c'est pareil. Et Saint-Simon, le style de Saint-Simon montre ces strates. C'est un langage à la fois du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Il a des différentes syntaxes qui mélangent de façon totalement fantaisiste et totalement irrégulière. Et ça donne un style très baroque, qui est assez unique en français, dont Proust saura se souvenir, et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'en plus, il y avait une sorte de défi pour un premier livre, de se mesurer au style d'un écrivain pareil. Ça peut paraître prétentieux, mais en fait, je pense que c'est plutôt stimulant. C'est-à-dire que quand vous écrivez un essai sur un auteur, comme vous êtes amené à le citer, votre style rentre constamment en comparaison avec ce que vous citez. Et si votre style n'est pas à la hauteur, tout ce que vous écrivez à côté s'effondre. Donc à chaque fois, pour chaque essai, chaque auteur, chaque style, il faut trouver une forme différente. C'est pour ça que Saint-Simon, le livre sur Saint-Simon est un essai assez classique, avec comme ça une conscience stylistique qui essaye de se tenir à la hauteur de Saint-Simon. Bon. Les autres, c'est un autre défi, car les styles sont différents.
Mais entre autres éléments très jubilatoires de ce petit livre par le format, le deuxième de Cécile Guilbert, il y a deux variations que j'aimerais que tu illustres, si tu veux bien, qui sont d'une part le prologue, dans lequel tu dis au fond qu'il est un mot français qui correspond bien au travail de Guy Debord, et là nous sommes dans un néo-bartisme, si je puis dire, c'est Debord, D-E-B-O-R-D, c'est-à-dire ce qui dépasse, ce qui surpasse, ce qui accentue, ce qui exagère. Et tu dis qu'il n'est pas un hasard si le patronyme de Debord c'est celui-là, compte tenu de sa proximité avec le mot débord. Et d'autre part, j'aimerais beaucoup que tu évoques cela aussi, il est un chapitre très intelligent, ça c'est fréquent sous la plume de Cécile Guilbert, l'intelligence, un rapprochement d'avec Jean-Luc Godard, qui, comme Debord, Godard, c'est presque les mêmes lettres en français. Et il y a des points communs entre les deux.
Ah oui, le débord, c'est vrai que c'était un jeu de ma part sur ce mot et sur le fait que Guy Debord, qui avait tellement cultivé le secret, la clandestinité, qui n'apparaissait jamais, c'est vrai qu'on ne connaît qu'une ou deux photos de lui. C'est quelqu'un qui avait choisi, puisque tout son travail portait sur la critique de ce qu'il appelait le spectacle, et qui, contrairement à une opinion et une vulgate, ne concerne pas forcément le médiatique. C'est-à-dire qu'après la mort de Debord, on a toujours considéré que le spectacle voulait dire le médiatique, les écrans, le cinéma, la télé, etc., bon, le journalisme. Mais dans l'esprit de Debord, le spectacle n'était pas ça. Je veux dire, le spectacle, dans l'esprit de Debord, c'était l'économie de marché devenue folle. C'est la définition qu'il donne du spectacle, c'est l'économie de marché devenue folle, c'est, et la raisonnement de toute la réalité par l'économie de marché, ce qui est évidemment excède de loin le médiatique. Donc cet homme est pris de clandestinité, de secret, n'a jamais changé de nom, n'a jamais pris de pseudonyme, etc. Donc je me joue effectivement, Olivier, de cette histoire de Debord, Debord, et sur le fait qu'il a été effectivement un penseur assez radical. Et sans doute le dernier penseur français de cette radicalité et dont on pouvait dire que sa vie était totalement raccord avec sa pensée. C'est-à-dire que n'apparaissant jamais, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné une interview à la télévision, c'est quelqu'un qui ne donnait jamais d'interview dans les journaux. Il publiait ses livres chez les Bovici et puis on ne le voyait jamais. Alors c'est vrai que c'est pas forcément une bonne posture non plus, parce que ne jamais vouloir apparaître dans le spectacle ou le médiatique, finalement c'est accorder beaucoup trop d'importance à ce médiatique. Mon éditeur Philippe Solers, dont on a parlé, qui se prétend de Bordien aussi maintenant, alors que
tu nous expliques pas en quoi.
Dans les années 60 et 70, il a jamais parlé de Debord, alors que bon, ils sont quand même contemporains. Lui, à l'époque, il s'occupait de tel quel. Bon, peu importe, mais Philippe Solers vous dirait que ne pas vouloir apparaître médiatiquement est un signe de puritanisme. Je pense que Debord était un grand puritain, comme Godard.
Précisément.
Mais qu'en revanche, ce qui me plaît chez Debord, que j'aime moins chez Godard, c'est que Debord avait des rapports très libres avec l'argent. Et je pense qu'on lui en a beaucoup voulu, si vous voulez, d'être à la fois un penseur radical de gauche qui était pensionné par un grand bourgeois comme les Bovici ou par son beau-frère qui était un grand antiquaire. Debord est quelqu'un qui était un esthète. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans des très beaux endroits. Il a vécu dans des très beaux appartements à Paris, à Florence. Voilà, donc ça peut-être sa différence avec Godard. Mais ceci étant, il y a beaucoup de points communs dans la proximité idéologique, mais avec des chemins très très différents, stratégiquement très différents.
Une forme de radicalité dans l'expression, parce qu'il faut bien reconnaître que là, les dernières productions de Jean-Luc Godard défient d'une certaine manière l'entendement classique.
Certes, mais Debord n'hésitait pas à projeter des écrans tout noirs, sans bande-son. Bon, ça, c'était vraiment les expériences très très radicales du cinéma expérimental des années 60, 50 et 60. Ouais.
Bah, il n'a pas été lettriste pour rien. On a déploré récemment la mort d'Isidore Isou, fondateur de ce mouvement. Très franchement, quand on relit les textes d'Isou, dont s'est réclamé Debord à ses débuts, on a quand même un peu de mal à prendre ça au sérieux. Non ?
Oui, mais moi, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, le Debord avant-gardiste et expérimental a son intérêt, et je ne le dénie pas. C'est comme l'aspect idéologique de son action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Debord tardif, c'est le Debord classique, qui renoue avec la langue française et avec la bibliothèque, disons, un certain rapport. C'est celui-là. Ça m'a été beaucoup reproché par les acteurs des années 60 et 70, qui n'ont pas supporté que quelqu'un de plus jeune, qui n'avait pas connu Debord à cette époque, s'empare de ce qu'il considérait comme la part la plus réactionnaire de Debord, en fait.
Nous sommes en 2000, donc il y a 7 ans, et Cécile publie son premier roman, toujours chez Gallimard, et non plus dans la collection de Solers, d'ailleurs, dans la collection Blanche, plus prestigieuse de l'auguste maison de la rue Sébastien Boitin. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous lire la première page, que je trouve dit jusqu'à du temps, c'est-à-dire les 15 premières lignes.
30 ans, pas d'enfant, du temps, un amant, le tout à Paris. J'ai plutôt la belle vie quand j'y pense. Mon job, obscur, méprisé, déchaînant l'Asie et Colibé. Tout juste bon pour les immigrés tamouls et les analphabètes. Pas vraiment à la hauteur des ambitions que nourrissaient père et mère pour leur progéniture, après les débuts d'une carrière qu'ils avaient été les seuls à juger prometteuse. Mais enfin, Juliette, tu ne vas tout de même pas ? Si, nous en restâmes là. Mon salaire est modique et mes journées réglées comme du papier à musique. Inspection de la salle une demi-heure avant l'ouverture, pause déjeuner 4 heures plus tard, réinspection, repose, tournée finale et extinction des feux à 17 heures. Le reste du temps, du temps.
Vous avez compris donc que la narratrice est gardienne de musée, ce qui après tout n'est pas plus bête qu'autre chose, d'autant que, s'il faut bien le dire, elle s'ennuie prodigieusement pendant ses promenades à l'intérieur de ses salles vides, elle a de fait du temps. Alors le temps en question, elle le consacre à toutes sortes d'activités sportives, pour partie, le tennis, et amoureuse aussi. Et il y a le lien qu'elle entretient avec son copain Arthur, si mes souvenirs sont bons, est tout à fait charmant. Et c'est assez, ce qui est très, très, très rafraîchissant dans ce texte, c'est que après 2 travaux d'histoire littéraire en ce qui concerne Saint-Simon, de théorisation du goût de la littérature en ce qui concerne Guy Debord, on est là dans quelque chose qui semble, sinon au premier degré, mais en tout cas plus allègre, plus alerte, plus léger. Et au fond, c'est une chronique de l'ère du temps, de quelqu'un qui n'est pas en rupture avec son époque, contrairement aux deux précédents modèles.
Oui, non, avec le Musée National, c'est vrai que j'avais envie d'écrire un livre gay et un livre heureux, parce que il y a cette injonction à laquelle j'ai toujours pensé de Lautréamont qui dit « ne créez pas du malheur dans vos livres ». En général, ça rejaillit sur vous, et c'est assez toxique, et je trouve qu'en plus, c'est moins fréquent, disons. Il y a beaucoup de névroses, souvent, dans les livres, beaucoup de malheurs, beaucoup d'épanchements, beaucoup de...
Dans les romans, oui.
Surtout dans les romans français, je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais en France, ça y va pas mal. Il y a eu une grosse période de dépression historique. Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire quelque chose de plus gai, de plus léger, et aussi de satirique. Parce que je trouvais que les anglo-saxons étaient très forts pour écrire des romans satiriques, qu'on avait eu nous-mêmes en France, des grands satiristes, comme par exemple Voltaire, et puis que cette veine était tarie. C'est vrai que c'est un roman qui date de 2000. Maintenant, je trouve qu'il y a davantage de romans français satiriques depuis quelques années. Il y a eu des livres de Duterte, il y a eu beaucoup plus de choses satiriques. Mais à l'époque, c'était pas tellement une veine. Donc j'avais envie de déplacer l'action. Ça se passe à Paris. C'est un livre qui est aussi un hymne à Paris. Parce que cette femme qui est gardienne dans un musée a beaucoup de temps libre. Alors elle observe à la fois ses contemporains qui sont dans cette religion de l'art, qui trépignent dans les salles de musée en regardant rien et en étant là. Elle entend des conversations, etc. Et puis elle flâne beaucoup, elle se promène dans les jardins, dans les rues. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est un livre sur Paris et aussi un livre sur l'époque et que j'avais déplacé quelques années plus tard. C'est-à-dire on peut supposer que ça se passe dans les années 2000, mais dans 2000, disons 3, 4, 5, peut-être 6. Bon. Et donc, c'est un livre qui, parce qu'il est satirique, veut en fait extrapoler certains effets qui étaient déjà à l'œuvre à cette époque, mais en tirer des conséquences. Alors, moi, je considère que c'est un livre qui m'a permis un peu de faire des gammes dans le roman, mais que c'est pas encore ça, quoi. Ce serait comme, si vous voulez, si on comparait à la peinture, le tableau serait pas achevé, mais il y aurait des esquisses. Certaines réussies, d'autres peut-être un peu moins, mais... Enfin, c'est un livre qui, avec lequel j'ai un rapport un peu difficile, mais c'est vrai qu'il y a il y a, je pense, une légèreté, et il y a un peu d'humour sur l'époque, oui, je pense.
On a évoqué la subversion involontaire en partie, dans le cas du duc de Saint-Simon, délibérée en revanche dans celui de Guy Debord, et là on va entrer avec ce qui est certainement ton livre le plus achevé, le plus ambitieux, et de surcroît le plus récent, ainsi que le plus volumineux, qui est cet objet littéraire d'une forme assez difficile à définir, qui remonte à maintenant 3 ans et qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, l'écrivain le plus libre. Alors ça, on est typiquement à l'intérieur d'une problématique française, même si le sujet est un écrivain qui ne l'est pas français. L'écrivain le plus libre, vous voyez, ouverture, je ne vous raconte pas de salade. Cécile Guilbert, l'écrivain le plus libre, l'infini Gallimard.
Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est Cécile Guilbert, l'écrivain le plus libre.
alors, admettons, il y avait un bandeau, subversion de l'autofiction. C'est une façon de dire que, bien entendu, qu'on va vous raconter ce que vous n'imaginez pas, puisque le sujet du livre, qui n'est pas apparu sur la couverture, non plus que sur le bandeau. C'est un écrivain qui, c'est vrai, n'est pas immensément célèbre en France, et qui s'appelle Lawrence Stern, qui est un écrivain de langue anglaise. Ici, tout le monde le connaît. En France, personne. Personne ne connaît Stern. Il y a d'ailleurs à ça des raisons techniques. C'est que le grand œuvre de Lawrence Stern, Tristram Shandy, a été traduit intégralement récemment. On peut dire. Il l'avait été antérieurement, mais dans des éditions introuvables, et que faut bien dire que nous ne sommes guère familiers de cet écrivain probablement fondamental dans l'édification de la littérature de langue anglaise au XVIIIe siècle. Alors, Cécile Guilbert s'est donc intéressée à cet inconnu célèbre, mais inconnu quand même. Et elle a composé un ouvrage qui d'abord est en nombre de pages beaucoup plus volumineux que d'habitude, mais ça c'est pas grave. C'est surtout que la structure de ce livre est, elle est située sur plusieurs plans. on est tantôt dans une évocation biographique du personnage, tantôt dans une mise en situation de l'auteur se rendant sur les lieux de Laurence Sterne, sa maison et sa tombe en particulier. On est aussi dans un débat très savant sur le cas Sterne et en particulier les liens qu'a entretenu Friedrich Nietzsche avec le dit Sterne. Le tout étant imprimé en caractères différents. C'est-à-dire que pour que le lecteur ne s'égare pas trop, on lui balise en quelque sorte la lecture, à charge pour lui s'il le souhaite, comme le propose Cécile Gilbert, de passer 120 pages et de poursuivre au-delà et retrouver la narration de l'existence, assez brève d'ailleurs, de ce type-là, dont on découvre au fil des pages, dont je découvre, j'ai fait des études d'anglais, mais j'avoue que je méconnaissais totalement Sterne, on découvre que Tristram Shandy a été un succès continental à l'intérieur de l'Europe, traduit immédiatement, et que tout lui est advenu pratiquement. Malheureusement, c'était peu de temps avant sa disparition. Bref, on est dans une appropriation par l'auteur, à la fois d'un personnage et d'une œuvre. C'est un livre qui est très désarmant, parce qu'il est également semé de documents, un peu comme certains des textes de ce merveilleux écrivain allemand qui vivait en Angleterre, mort prématurément, qui s'appelait Sebald, et qui procédait de la même manière en ce qui concerne la structure narrative. Et par exemple, vous aurez le grand agrément à la page 19, pardon, à la page 24, de découvrir qu'il existe une association des amis de la maison natale de Laurence Sterne, association qui s'appelle The Friends of Shandy Hall, The Laurence Sterne Trust, qui est installé à Cotswold, dans le Yorkshire. Il y a même le numéro de téléphone. Et est reproduite la Life Membership Card qui a été émise, numéro 427, au nom de Cécile Gilbert, laquelle a signé la carte d'adhésion au Tristram Shandy Hall. Tout ça, c'est très amusant, c'est vrai, le livre est extraordinairement séduisant, assez difficile, il faut en convenir, mais il est prodigieux pour quelle raison? C'est parce qu'il me semble, quant à moi, et j'aimerais que tu me dises si j'ai raison ou pas, c'est que nous sommes dans un écrivain de la avec un écrivain de la rupture. Le mode de narration de Tristram Shandy n'est pas sans rappeler celui de Jacques le Fataliste de Diderot, quasi contemporain, un peu postérieur, ou dans un autre genre peut-être, on viendra à Paul Valéry, parce que je trouve que vraiment le lien avec Valéry est manifeste. En tout cas, on est dans quelque chose qui, tout comme Jacques le Fataliste, peut-être le neveu de Rameau, du même Diderot, procède par rupture. C'est le cas de Tristram Shandy, et tu as voulu que ta narration à toi soit elle-même fondée sur cette rupture.
Mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que quand on s'attaque à un auteur du point de vue de l'essai et qu'on a une certaine ambition stylistique, en fait, il faut trouver un moyen d'être relativement mimétique. Ça ne veut pas dire que vous allez plagier son style, mais ça veut dire que vous devez trouver une tonalité et trouver une forme. Puisque si l'essai est un art, au même titre que le roman fait l'objet d'un art, si vous voulez, je pense que effectivement, comme un discours politique, tout objet rhétorique qui met en œuvre le langage peut faire l'objet d'un art, on est d'accord. Donc il faut trouver une forme, il faut trouver une tonalité. Donc à chaque fois, il faut rentrer dans un rapport, à mon sens, relativement mimétique, un peu comme un insecte, si vous voulez, qui se mettrait sur un arbre, enfin je ne sais plus comment s'appellent ces insectes qui se mettent sur les arbres, les phasmes, et qui prennent les formes. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ordre du plagiat, ce n'est pas de l'ordre de l'imitation, mais c'est de l'ordre de la parenté. Il faut qu'il y ait une parenté spirituelle. Quand vous parlez d'un écrivain comme Sterne, qui est l'écrivain vraiment de la liberté, de la fantaisie, qui a inventé des choses au XVIIIe siècle, enfin le canon du roman moderne, mais avec des audaces formelles, une page toute noire, une page marbrée, des variations typographiques, il égare son lecteur, etc. Il fait des choses qui sont tout à fait étourdissantes et éblouissantes. Il est l'écrivain le plus libre, comme le disait Nietzsche. Si vous vous attaquez à un type comme ça, de façon totalement académique, en disant « je vais raconter sa vie, je vais faire une analyse de Tristram Shandy », etc., vous faites un objet totalement ennuyeux. Et donc, moi, c'est un livre qui m'a donné énormément de mal, parce que pendant très longtemps, je n'ai pas trouvé la forme ad hoc pour parler de Sterne. C'est-à-dire, pour faire sa biographie, bon, ça allait à peu près. Je m'étais rendu en Angleterre, j'avais acheté tout ce que je pouvais parce qu'en France, il n'y avait rien du tout. Et comme le dit Olivier, c'était très bizarre, cet auteur qui a influencé énormément la modernité littéraire, dont tous les grands écrivains au XIXe siècle parlent, dont tous les grands écrivains au XXe siècle, Joyce, Nabokov, Pasolini, tout le monde en parle. Un jour, j'ai acheté Tristram Shandy, dans cette vieille traduction qui était assez ennuyeuse. Je ne comprenais pas très bien d'ailleurs en la lisant pourquoi on disait que Stern était si amusant parce que la traduction était déplorable, mais en même temps, j'étais extrêmement séduite. Donc extrêmement séduite par ce livre, je me suis dit, mais qui est Stern? Mais qui c'est ce type, quoi? Bon, et je ne trouvais rien, il n'y avait rien du tout, aucune biographie, aucun essai. Je me suis dit, bah, je vais m'en occuper moi-même, je vais aller en Angleterre voir ce qui existe. Donc j'ai trouvé des biographies, ces lettres qui n'étaient pas traduites, enfin bref. Je me suis documenté. Donc écrire sa biographie, c'était assez simple. Aller sur les lieux et les raconter de façon autobiographique, c'était assez simple. Quoi qu'il fallait trouver à chaque fois un certain registre rhétorique. Ce qui était beaucoup plus compliqué, en revanche, c'était de donner, si vous voulez, une interprétation nouvelle, parce que j'avais envie de... Enfin, si vous voulez, si vous ne pensez pas apporter du nouveau sur un auteur, ce n'est pas la peine d'écrire un essai. J'écris des essais sur des auteurs dont je pense... ou que la vision qui en a été donnée me semble trop académique, ou trop classique, ou partiale, etc. Je ne m'amuserai jamais à écrire un essai sur Proust, dont tout a été écrit de façon magistrale. Vous voyez, il y a des auteurs auxquels je ne m'attaquerai jamais, et d'ailleurs je pensais avec Stern que ça serait mon dernier essai. Pour rien vous cacher, je pensais que ça serait mon dernier essai. Donc c'est un livre qui met en œuvre toute une série de batteries... métalittéraire, etc., comme une sorte de somme un peu sur la littérature. Et donc, donner la théorie que j'avais envie de donner de Tristram Shandy, je ne trouvais pas la forme parce que le style de Stern est le style de la conversation. Si vous voulez, c'est extrêmement vivant, ça va très très vite. Tristram Shandy écrit dans un style, conversationnel, c'est comme de la crème chantilly, de la crème fouettée, et dès qu'on essaye de citer... des passages de Tristram Shandy, tout s'écroule à côté. Donc j'ai mis du temps à trouver le fait que je devais dialoguer moi-même avec Stern et que je devais lui faire dire, en fait, ce qu'aucun commentateur ne lui avait jamais fait dire, à savoir que Tristram Shandy, qui est certes un livre très amusant sur cette famille foutraque, les Shandy, l'oncle, le père, avec leur dada, leur hobby horses, en fait... Et certes, ce livre sympathique, amusant et parfois grotesque, mais c'est surtout une formidable machine de guerre contre le roman familial. Si vous voulez, c'est une subversion et un dynamitage du roman familial, de la généalogie, de l'ascendance, des liens du sang, de tout ce avec quoi un écrivain doit rompre pour écrire, en fait. Un écrivain doit rompre pour écrire avec toute communauté familiale, sociale. Et derrière cette pochade... fort amusante de Tristram Shandy, il me semblait qu'il y avait effectivement une subversion totale du roman familial, de la généalogie, et on peut l'illustrer. Et je voulais faire dire ça à Stern, et donc c'est pour ça qu'à un moment, j'ai trouvé l'astuce qui consiste à dialoguer avec son spectre. Je suis un jour dans mon bureau, et je suis visité par le spectre de Stern, et là, je peux lui poser des questions très modernes. Comme il revient, si vous voulez, en 2004, me visiter, il a de l'au-delà, si vous voulez, toute l'histoire de la littérature qui a suivi. Donc il peut tout à fait parler de tas d'auteurs qui l'ont. Et alors ça c'est une idée extrêmement féconde, parce que ça si vous voulez, ça dynamite un peu l'historicisme, et ça permet à Stern de dire, oui, par exemple, Autréamont, d'une certaine façon, je l'ai inspiré, Artaud aussi, Nabokov aussi. Alors il juge aussi mal certains autres auteurs, donc ça permet comme ça un jugement critique extrêmement vigoureux.
C'est pourquoi, écrit Cécile, j'ai trouvé jouissif d'écrire ce
livre.
Pour ouvrir les fenêtres, prendre le large et l'air. Tu es là, lecteur, des tombeaux de gémissements romanesques, décomposés en vrac, dégoûtés par ces flopés d'écrivains qui roulent sur la pente du néant et se méprisent eux-mêmes avec des cris lugubres. Prendre le large et l'air, ne jamais m'ennuyer, rire beaucoup. Ah, cette manie de voir toute chose à travers les brumes du Lexomil. Laurence Stern meurt à 54 ans d'une pleurésie à Londres, dans une petite chambre située 44 Old Bond Street, le vendredi 18 mars 1768, à 4 heures de l'après-midi. Au même moment, non loin de là, ses amis Hume et Garrick le grand acteur, dînent chez un troisième, John Crawford, lequel s'inquiète et demande à son valet MacDonald d'aller s'enquérir de l'état de l'écrivain très dégradé depuis plusieurs jours. MacDonald raconte. Je suis entré et il était juste en train de mourir. J'ai attendu 10 minutes, mais au bout de 5, il a dit « Cette fois, ça y est, Il a levé la main comme pour parer un coup, et il est mort en une minute. Vous voyez, ce livre de Cécile Gilbert, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est en scène, elle nous raconte que, oui, voilà comment il est, il vient la voir, que c'est très agréable de se promener dans la maison de Stern, que la pelouse est impeccable, qu'il y a une atmosphère particulière, qu'au fond, les Anglais, les Irlandais, quand même ces gens-là, au 18e en tout cas, ils savaient très bien vivre, et qu'elle est très heureuse d'écrire pour son lecteur dont elle aimerait qu'il ne s'emmerde pas trop à la lecture de cet essai. C'est très 18e comme démarche, évidemment, et c'est extraordinairement, je dirais, rémunérateur pour le lecteur, gratifiant. Ça n'est pas toujours facile, et encore une fois, le passage à propos de Nietzsche n'est pas simple, mais tout ça est tout à fait agréable. Et j'espère d'ailleurs, ce disant, que, ainsi que l'a illustré Cécile Gilbert tout à l'heure, l'essai conçu de la sorte est bel et bien un genre majeur et dont le bonheur de lecture, l'approfondissement sont exactement comparables à ceux du roman. Il n'y a aucune hiérarchie dans les genres littéraires, vous le savez aussi bien que nous. Mais ceci en est une démonstration. Alors avant que de vous donner la parole, je voudrais que tu nous dises quelques mots, si tu veux bien, sur ton prochain livre. Merci Cécile, merci à vous tous. Nous nous retrouvons dans un mois et à Cécile succédera Claude Arnaud, qui est également quelqu'un de tout à fait intéressant, vous en jugerez. Merci à tous. Thank you.